Vous êtes avec SBS French.
Et les principaux titres de l'actualité de ce samedi 11 juillet 2020. L'OMS appelle à rester vigilant face au Covid-19 avec 220 000 nouveaux cas enregistrés dans le monde en une seule journée. En Turquie, la basilique Sainte-Sophie va être transformée en mosquée. Et en Australie, plus précisément dans le Victoria, les autorités sanitaires recommandent fortement le port du masque, en tout cas dans les lieux publics. Et on commence par l'avertissement de l'Organisation mondiale de la santé qui estime que l'éradication du Covid-19 est très improbable alors qu'un record de nouveaux cas vient d'être atteint avec plus de 220 000 personnes diagnostiquées positives au coronavirus en une seule journée. D'ailleurs, le nombre de personnes infectées a doublé au cours des 6 dernières semaines et le nombre de morts a lui franchi la barre des 550 000. Mike Ryan, qui dirige le programme des urgences à l'OMS, prévient que le risque de propagation du virus ne disparaîtra jamais complètement.
Our advice has been, I think, quite consistent in advising countries, number one, to open up slowly in a stepwise fashion and to accept the fact that in our current situation, it is very unlikely that we can eradicate or eliminate this virus. There are very particular environments in which that can occur, island states and other places, but even they risk reimportation. And we've seen countries who've managed to get to zero or almost zero reimport virus from outside.
Le Conseil d'État turc a abrogé hier vendredi le statut de musée à la basilique Sainte-Sophie et le président Recep Tayyip Erdogan a lui annoncé que la première prière musulmane s'y déroulera le 24 juillet. Cette basilique orthodoxe va donc devenir une mosquée. On écoute le président turc.
Tüm camilerimiz gibi.
Like all our other mosques, the doors of Hagia Sophia will be open to all locals, foreigners, Muslims and non-Muslims. Being the common heritage of humankind, Hagia Sophia will continue to embrace everyone in a more sincere, unique way with its new status.
Et cette décision est critiquée par de nombreuses voix à travers le monde. C'est le cas des États-Unis, de la Grèce, de la France ou encore de l'UNESCO. Mais derrière cette décision, il faut avant tout voir un calcul politique pour le président Erdogan. Écoutez les explications de Anissa El-Jabri pour Radio France Internationale.
Le pays attend depuis 86 ans. Voilà ce qu'écrivait aujourd'hui un éditorialiste proche du pouvoir. Sainte-Sophie était déjà depuis longtemps dans le viseur de Recep Tayyip Erdogan. Séance de lecture du Coran ou prière collective sur le parvis du monument, les activités liées à l'islam se sont multipliées depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Cette décision, sans surprise, c'est l'assurance d'un écho très positif au sein de la base électorale islamo-conservatrice du président, sans doute même au-delà, de quoi pour Erdogan consolider un pouvoir contesté. L'année dernière, son parti a perdu les élections municipales, y compris les villes d'Istanbul et Ankara. À cela, il faut ajouter la récession mondiale qui commence et va frapper un pays déjà en difficulté économique. Ce nouveau durcissement et les réactions et les tensions à l'international à venir confirment aussi le tournant d'une diplomatie musclée, voire agressive. Interventions en Libye, forages gaziers en Méditerranée seront d'ailleurs au menu d'un Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE lundi prochain.
Et en France, des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans les grandes villes du pays contre le nouveau gouvernement. Les principales cibles de leurs critiques, c'est le nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui en tant qu'avocat s'en est plusieurs fois pris au mouvement MeToo. Et puis, il y a aussi le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui est sous le coup d'une plainte de viol. Alors on va donc écouter le reportage de Yoram Melloul à Paris, qui s'est rendu donc à la rencontre de ces manifestants féministes qui étaient rassemblés devant l'Hôtel de Ville.
Sur le parvis de l'Hôtel de Ville, les militantes féministes rassemblées en nombre n'ont qu'un seul mot à la bouche.
C'est la honte.
Ava, 22 ans, habituée des manifestations féministes.
On parle de viol, on parle pas, il a pas cassé un verre en fait. C'est quand même une image très forte et je pense à toutes les victimes qui voient ça et qui disent « Mais moi, pourquoi j'irai porter plainte ?» Le premier flic de France accusé, mais il a accès à un poste comme ça.
60 ans séparent Ava et Bernadette, mais leur colère est identique.
Quand j'ai entendu cette nomination, j'ai été outrée, un choc.
Avec elle, Fatih. Ses yeux pétillants dépassent d'un masque noir posé sur son visage.
Ils veulent nous mettre en colère. C'est inadmissible de prendre ces messieurs-là comme ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que si vous allez au commissariat, on ne va pas vous écouter. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, les femmes, taisez-vous et restez avec vos violeurs.
De l'autre côté de la foule, Robin, 26 ans. Il a à la main un sac rempli de cartons plein de slogans. Il est venu en couple.
On voyait quelqu'un au ministère qui est accusé de viol, même s'il n'est pas forcément coupable, j'en sais rien. C'est un peu un doigt d'honneur à toutes les luttes féministes.
Trace du passage de la manifestation, sur les fontaines de la place de l'Hôtel de Ville, des militantes collent des affiches. Dessus est écrit « Stop à la misogynie ».
Et des manifestations, il y en a aussi depuis plusieurs jours en Serbie, où une partie grandissante de la population s'insurge contre la gestion de la pandémie par le président Aleksandar Vučić. Un mouvement de colère qui tourne à l'escalade, puisqu'hier soir, les manifestants dans la capitale, à Belgrade, ont tenté d'envahir le Parlement. Ils ont aussi jeté des pierres, des bouteilles et même des fumigènes sur la police. La première ministre, Ana Brnabić, a, elle, appelé à la levée des manifestations en raison du risque de propagation du Covid-19, alors que la Serbie vient d'enregistrer son plus lourd bilan, 18 morts en une seule journée.
There will be time for protests, always. As soon as we see that the numbers are under control, let it be with masks and safe distancing. We are going to have to live like this until a vaccine comes. But at this moment, believe me, our health system will see a great number of these people that protested yesterday, 2 and 3 days ago on the streets, they and their parents getting hospital treatment.
Et en Allemagne, une révélation embarrassante. Un espion égyptien s'était infiltré au sein du service de presse du gouvernement. L'affaire remonte en fait à plus d'un an, mais elle n'a été révélée que tout récemment. Les autorités, de leur côté, assurent que ce dernier n'a pas eu accès à des informations sensibles. On fait le point avec le correspondant de RFI, Pascal Thibault.
Il y avait déjà eu les services secrets américains qui avaient un penchant pour le portable de la chancelière. Des cyberattaques orchestrées par Moscou ont frappé le Parlement et aussi le bureau de la députée Angela Merkel. Le collaborateur de l'office de presse du gouvernement, une institution dirigée par le porte-parole de la chancelière, n'a pas eu accès à des documents confidentiels, assure-t-on dans les milieux gouvernementaux. Le Bundespresseamt a ses bureaux à quelques centaines de mètres de la chancellerie à Berlin. L'homme, un Allemand né en Égypte, après la presse, travaillait pour un service organisant les visites dans la capitale de groupes invités par les députés. L'affaire a été révélée hier lors de la présentation du rapport de l'Office de protection de la Constitution. L'homme travaillait pour les services de renseignements égyptiens qui rassemblent des informations en Allemagne sur les opposants au régime, à commencer par la confrérie des frères musulmans. L'enquête a été ouverte en décembre dernier et n'est pas close. Les soupçons pesant sur l'homme ne suffiraient pas pour justifier un mandat d'arrêt ou l'ouverture d'une procédure judiciaire. L'office de presse du gouvernement se refusait ce matin à tout commentaire. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En Inde, fin de cavale pour l'un des criminels les plus traqués du pays, Vikas Dubey, qui était recherché pour plus d'une soixantaine de meurtres, a été arrêté et même tué par les forces de police. Il avait échappé pendant des années à la justice grâce à ses nombreuses collections politiques. Et sa mort sous les balles de la police dans des conditions douteuses est due, d'après une grande partie de la population, au fait qu'il en savait trop. Les explications de Sébastien Farsi pour RFI.
Vikas Dubey n'avait peur de rien et apparemment de personne. En 2000, il se fait connaître en abattant un ministre régional dans un poste de police. Il est ensuite acquitté car tous les témoins se rétractent. Depuis 30 ans, Vikas Dubey a été poursuivi dans plus de 60 affaires de drogue, d'assassinat et de vol de terrain, mais n'est jamais détenu bien longtemps grâce à ses liens avec les politiciens de cet état de l'Uttar Pradesh. Lui-même est élu à plusieurs postes locaux sous des étiquettes qui changent avec les majorités du moment. Cette protection semblait toutefois moins efficace ces derniers jours. La semaine dernière, une patrouille vient l'arrêter. Vikas Dubey est informé par ses sources dans la police. Il tend alors une embuscade et tue 8 policiers à coups d'armes automatiques. La chasse à l'homme dure ensuite une semaine dans 3 états différents. Vikas Dubey est finalement arrêté jeudi soir, mais tôt ce vendredi, il est abattu au moment où il aurait cherché à s'échapper après qu'une voiture s'est mystérieusement retournée. Une théorie que les médias indiens ont du mal à avaler. Beaucoup estiment surtout que Vikas Dubey en savait trop sur sur la corruption du système régional pour être capturé vivant. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
En Australie, deux nouveaux cas de coronavirus détectés dans l'état du Queensland. Il s'agit de personnes de retour de l'étranger qui sont actuellement en quarantaine dans des hôtels. Une annonce qui intervient alors que le Queensland vient tout juste de rouvrir ses frontières aux autres états australiens, à l'exception du Victoria, et qui fait donc face à un afflux de visiteurs. Plus de 300 000 personnes ont téléchargé un Border Pass ces derniers jours, tandis que 4 500 autres visiteurs doivent, eux, arriver par voie aérienne au cours du week-end. Et dans le Victoria, qui est donc, malgré lui, le nouvel épicentre de la pandémie en Australie, les services sanitaires viennent de lancer une campagne pour inciter la population à porter des masques. Une recommandation à suivre plus encore si vous vivez dans une zone placée en confinement, estime Brett Sutton, le médecin en chef de l'État du Victoria.
If you need to leave home and can't keep 1.5 meters apart, wearing a mask will provide you with a physical barrier to coronavirus, protecting you and those around you. These recommendations apply to adults over the age of 18.
Et puis l'agence australienne du médicament, la Therapeutic Goods Administration, pardon pour l'accent, vient elle d'approuver le remdesivir comme premier traitement à utiliser en cas de contamination au coronavirus. Le remdesivir pourra être prescrit aux adultes mais aussi aux adolescents qui souffrent de symptômes aigus et qui sont hospitalisés, alors que différentes expériences à travers le monde semblent démontrer que ce médicament accroît considérablement les chances de survie en cas donc de symptômes aigus. Et pour finir ce journal, on jette un œil à la météo de ce samedi. Il y a du soleil à Perth avec 18 degrés, 13 degrés à Adélaïde, aujourd'hui sous la pluie, 14 degrés à Melbourne, 20 degrés à Sydney, également sous un temps maussade, 24 degrés à Brisbane et enfin 33 degrés à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.